Bonjour à tous et bonne année. Et oui, car c'est le début de l'année 2014 et vous jouez toujours au Val et ça c'est très très bien. Donc bienvenue et bonne année sur le Podval du cast avec
bonne année.
Ses participants habituels.
Allez, Ben, en cœur.
Bonne année. Donc la Terre a fait un tour d'une étoile, donc nous fêtons une année.
C'est exactement.
Il me semble que c'est ça. C'est le Val quoi.
C'est le Val. Avec Darky qui est avec nous.
Bonsoir.
Et Jeff qui est avec nous également. Et
bonsoir, bonsoir.
Comme c'est la tradition, vous allez découvrir le sujet du podcast que je vais
dans le chapeau, là, c'est ça ?
Tout de suite aller chercher dans mon petit carnet, parce que je n'ai pas encore pris de la décision.
Aller chercher dans la rivière.
Non, tiens, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais vous donner aujourd'hui comme sujet ?
Du coup, techniquement, toi non plus, tu ne la connais pas encore.
Moi, il y a un truc qui me plairait bien, c'est qu'on explique les différents termes techniques qu'il nous arrive d'employer au Val, tout ce qui est les Deneb, les Foodman Kent, ce genre de choses. Alors comment on pourrait intituler un podcast comme ça ? C'est le jargon du Val, quelque chose comme ça ? Le jargon du Val.
La BC de
Val. Le glossaire.
Le glossaire.
Alors, première chose, c'est le Foodman Kent. Je pense qu'il faut... Enfin, ça te plaît pas comme sujet, Darky, j'ai l'impression de te
méfier. Je suis en train de me dire que j'en connais pas beaucoup, j'ai l'impression que j'en connais pas beaucoup. Alors,
même si
non, moi, ça m'intéresse fortement. Je sens que justement, ça va être moi qui va être à ta place, Darky, sur ce coup-là. Ouais. C'est moi qui est assis et qui va poser des questions de temps en temps.
Ça marche. Est-ce qu'on va pouvoir parler de ceux qui ne sont pas dans le livre aussi ? Celles qu'on a plus ou moins inventées, les termes.
Oui, voilà, ce serait sympa. Oui, aussi.
Okay.
Ouais. Les termes qu'on va pouvoir employer sur ce podcast régulièrement. Alors, on commence par le Foodman Kent. Alors, Darky, qu'est-ce que c'est que le Foodman Kent ? Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu à nos auditeurs ?
Alors, le Foodman Kent, Rome, on en a parlé dans l'épisode 1 et 2, il me semble, à chaque fois. Mais donc, c'est un fou très faible,
tout à fait.
Il me semble,
tout à fait.
Puisqu'il n'a que pour but, en fait, de piocher à fond avant qu'il meure.
Exactement.
Si, en fait, c'est un peu une tragédie pour l'adversaire, parce que donc c'est un fou faible. S'il le laisse sur le versant de son adversaire, ça va lui être très très profitable quoi. Donc en fait c'est un fou qu'on doit prendre pour cible malgré sa faiblesse.
Exactement.
Parce qu'il va pas faire mal, il a un petit pic, il a un petit cœur parce qu'on s'en fout, ils veulent pas spécialement qu'il survive. En tout cas on veut pas mettre des grosses cartes là-dedans. On veut juste qu'il nous rapporte.
Alors il permet de faire ce qu'on appelle un recyclage de mauvaises cartes, puisque en fait on pose des mauvaises cartes et on a avec son trèfle une chance d'en piocher deux autres qui sont forcément meilleurs, parce qu'en général, ce qu'on met dans un Foodman Kent, c'est des as, des 2, des 3 maximum. Et voilà. Alors effectivement, y a un autre terme technique que j'emploie parfois au sujet du Foodman Kent, c'est le terme de recyclage. Le recyclage, ça vient de Magic l'Assemblée. La capacité de recyclage dans Magic l'Assemblée permet pour un coup donné de défausser une carte et d'en piocher une autre. Donc c'est vous défaussez une carte de votre main et vous en piochez une autre. C'est ça la capacité de recyclage. D'où parfois, vous m'entendrez peut-être parfois sur le podcast du Val dire que le Foodman Kent permet de recycler des arcanes. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on pose 4 cartes sur le Val et en échange, on en pioche 2 nouvelles. Donc on recycle des cartes.
Parfois, on fait un espèce de magicien de Menkent aussi.
Ah, tu fais ça toi ?
Bah, ça m'est déjà arrivé de poser un mage dont je sais qu'il ne survivra pas plus d'un tour. Mais je le pose dans le seul et l'unique but de détruire un trèfle et de piocher.
Ah, c'est le sniper, ça.
Le sniper ?
On l'appelle le sniper.
Le sniper, ouais. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Mais disons qu'il a cette propriété commune avec le Foodman Kent de recycler.
D'accord, ok.
Quelles que soient les cartes que je mets dans le fou, il ne survivra pas, donc autant mettre des faibles.
C'est vrai.
Et je me sers de sa capacité à piocher.
Donc, là, tu viens de présenter une autre figure qui est ce qu'on appelle le sniper, c'est-à-dire le magicien qui arrive sur le Val. Et tac, il utilise tout de suite un carreau très très fort. Souvent, il a un pouvoir, une assise et un cœur tout pourri. Donc un pouvoir et un cœur tout pourri. Mais il va juste servir à blaster un grand coup, un trèfle, pour piocher une carte ou éliminer un spectre bourrin, etc. Enfin, voilà. C'est nous, on appelle ça le sniper. Après,
je crois que tu disais ça aussi. J'avais pas spécialement tilté qu'il avait un nom spécial, mais effectivement, ouais.
Alors, l'autre, un petit peu dans le même style.
Jeff. Peux-tu rappeler ce qu'est Mankent directement aussi ?
Le Mankent, le Foodman Kent ou le Mankent tout court ?
L'expression Mankent.
Alors le Mankent, c'est un nom d'étoile, Menkent.
Histoire d'expliquer.
Et c'est un personnage du Val, en fait. C'est un ami d'Antares et de Sinlos. Donc, c'est une étoile qui fait partie des, on va dire, des héros de l'histoire du Val. Et ils seront d'ailleurs bien développés, un petit peu plus développés dans le deuxième tome. Mais en gros, c'est un personnage. Et. Assez farfelu, on n'en sait pas trop sur lui. Juste cette stratégie, on sait que c'est quelque chose qu'il joue souvent, une sortie qu'il fait souvent. Donc on l'appelle le Food Mannequin parce que c'est lui qui le joue en général.
Mais
cette étoile-là.
Tant qu'à être vraiment dans l'historique, hein, je me fais volontairement ignorant sur ce coup-là. C'est toi qui as eu cette idée-là, qui a sorti cette expression-là, ou c'est éventuellement un joueur qui a sorti cette expression ?
Non. Cette expression-là vient du livre de base et c'est moi qui en suis l'auteur. Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Menkent qui a trouvé cette stratégie.
Ou pas un joueur qui a dit tiens, ça pourrait me faire penser à tel personnage que tu as inventé.
Voilà, alors justement, donc
n'est pas le cas du coup de l'enfant de Milaz.
Ce qui n'est pas le cas de l'enfant de Milaz, qui lui, par contre, hérite directement d'un joueur qui s'appelle Pierre. Pierre, je ne sais pas s'il veut qu'on prononce son nom de famille, mais voilà. Et donc, il se fait appeler Milaz sur le forum du Val et qui, lui, a... Alors, on ne va pas dire qu'il l'a découvert parce qu'il y a controverse, il y a des gens qui l'utilisaient avant, mais lui, il l'a vraiment théorisé, ce qu'on appelle l'enfant de Milaz. Alors, qu'est-ce que c'est que l'enfant de Milaz ? Darky, tu veux expliquer ?
Ouais, alors, donc, l'enfant de Milaz, c'est un enfant qu'on pose sur son versant et... pour qu'on ne fait pas jouer son cœur à son tour.
Exactement.
Ce qui laisse l'adversaire dans un profond embarras. Quelle carte je dois dépenser pour tuer cet enfant ? Est-ce que je lance mon 8 de pique ? Mais ça se trouve, c'est un as de cœur que l'enfant a, et du coup, j'ai fait un overkill, ouais. On pourra définir ça plus tard, peut-être. ou est-ce que je balance un 1 parce que comme il va me faire l'habitude, il met tout le temps un as de cœur à la place de l'enfant, à la place du cœur de l'enfant, et voilà, ça plonge l'adversaire dans un profond embarras. Et je crois que c'est tout.
Bah oui. Le problème de l'enfant de Milaz qui ne révèle pas son cœur, c'est que soit ça fait dépenser un trèfle pour regarder le cœur, auquel cas ça désamorce complètement le bluff de l'enfant. Soit tu utilises un gros pic en te disant c'est un gros gamin. Mais si... le portable... Attends, c'est ton truc de Saint Seiya ou pas ? Ah non, bah là c'est nul alors, ton portable qui sonne et c'est pas le truc de Saint Seiya. Ah dommage, on aurait pu faire écouter...
Ça fait un peu peur cette musique.
La super sonnerie de portable de Jeff avec le truc de Saint Seiya.
Désolé messieurs, désolé.
Ah, peut-être en bonus.
À voir parce que ça me ferait mal de diffuser un truc comme ça qui, entre guillemets, vient pas de,
oui, c'est vrai,
de chez nous. Tu vois. Donc bref, alors on en était où là ? Oui, l'enfant de Milaz. Donc l'enfant de Milaz, le principe c'est que si tu défausses un gros pic... et qu'en fait c'était un tout petit enfant, bah t'as, comme dit Darky tout à l'heure, t'as fait un overkill, c'est-à-dire t'as dépensé une énorme carte pour un tout petit cœur.
Et donc du gâchis.
Coup, voilà, c'est du gâchis tout simplement.
Il y a même plus que l'adversaire n'est pas réduit à ce choix binaire. Il peut même, moi c'est ce que je proposais dans les commentaires, mais Milaz m'a dit que c'était pas spécialement une si bonne idée. Hein,
de pas jouer.
D'ignorer. Je me dis, ok, tu poses un enfant, mais comme il ne t'a pas servi ce tour-ci. T'as pas spécialement un avantage sur moi, et moi j'ai pas envie de perdre du temps ou des cartes
Ça joue si t'as des carreaux forts, si tu peux taper au carreau.
Par exemple, ou tu peux en profiter pour poser une nouvelle formation qu'agira plus tard aussi, quoi. Ouais. Tu vois, de gagner du temps, quoi. Mais Milaz m'a dit à raison que n'empêche que ça a influencé ma stratégie, ça a influencé ma manière de jouer à moindre effort pour lui. Il posait deux cartes. Et moi, j'ai beau dire que je m'en fichais, au final, j'étais complètement restreint.
Il te limite. Il est fantastique ce Milaz d'abord, parce que on peut le remercier. C'est vraiment une sortie qu'il a particulièrement théorisée. Je sais qu'il y a d'autres joueurs, notamment des apprentis à Cédric à Lille, qui jouaient déjà cette stratégie. Alors pas forcément avec des enfants, d'ailleurs aussi avec des accomplis. Mais vraiment c'est Milaz qui l'a vraiment théorisé, qui a fait le travail, quoi.
Qui nous a bluffé tous les deux.
Il nous a bluffé tous les deux.
Je t'ai dit quelques jours avant.
Ouais, c'est clair, putain, nous enfoirés.
Comme des nuls.
On peut le remercier et vous dire aussi, chers auditeurs, que Milaz nous rejoindra très très probablement dans la suite des podcasts du Val, puisqu'il fait maintenant officiellement partie des rédacteurs du blog. Donc voilà. Allez, on continue.
J'ai
sur
un enfant,
notre
un enfant étalon. C'est un enfant avec un cœur pas forcément... L'idéal, ce serait de le mettre à 5 de cœur,
ouais.
De montrer son cœur, et de regarder ce que l'adversaire fait. Et ça permet d'estimer, d'ajouter à ses probabilités, le pic qu'a l'adversaire. S'il peut le taper, c'est qu'il a pas mal de pics, dont un au-dessus de 6.
Tu vois,
s'il lance un pic de sa main, ça veut dire peut-être qu'il est blindé de pic et qu'il s'en fiche. Et du coup, ça te donne une information.
Ouais. Je m'en suis servi dans une partie qu'on a faite à l'instant. Parce qu'il faut savoir qu'avec Darky, on jouait.
Ah, ton premier enfant, c'était
mon premier enfant,
étalon.
C'était un enfant étalon. Ouais. Le premier, donc j'ai posé un joker noir avec un 5 de cœur. Et mon but, c'était d'évaluer la force du pic de Darky. C'est pour ça qu'à un moment donné, je t'ai dit, c'est dommage que j'ai pas regardé ton pic avec mon trèfle précédent. Mm-hmm. Parce qu'en fait, c'était un enfant étalon. Et ouais, j'ai mal joué. J'ai très mal joué. Oh, contre toi, j'ai très mal joué aujourd'hui. Bref. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est tu lui as donné un nom, l'enfant étalon.
Punching ball, mais ouais, enfant étalon, j'aime bien.
D'accord.
Pourquoi étalon?
Parce qu'il permet d'étalonner.
Je suis ignorant du podcast.
Il étalonne, quoi. Ouais, c'est
il étalonne la hauteur des pics adverses.
Ouais, voilà.
C'est au sens de le maître étalon, en fait, qui est une barre de fer qui est placée en Angleterre et qui est censée être
le
maître. Voilà. On a posé cette barre de fer, on a dit, voilà, c'est le maître étalon, au sens de, c'est celui qui dit ce qu'est un mètre, exactement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui...
Ce à quoi on se réfère pour mesurer. Et du coup, ça mesure bien. Voilà. On se réfère à cet enfant pour mesurer la pique.
Voilà. Donc,
ton histoire,
et le problème, c'est qu'elle s'est érodée avec le temps, cette petite barrette. Donc, du coup, elle n'est plus si étalonne que ça. Mais voilà, l'enfant étalon, clairement, le étalon, il vient de là. Autre mot à définir, autre terme qu'on utilise, ce sont... j'en ai oublié un. Le pantin d'épouvantail.
Ah, le pantin, je te laisse le définir.
Dans la suite Menken. Oh, c'est compliqué. Le pantin, en gros, c'est un accompli faible. Donc, dont les figures sont. Alors, il y a plein de types de pantins. Moi, je pense que c'est encore à théoriser. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en gros, c'est un accompli faible dont le but est d'attirer, de focaliser l'attention de l'adversaire. Si l'adversaire défausse le pouvoir de ce pantin, on pourra toujours l'éduquer avec un autre pouvoir. Mais au tour 1, le pantin, en fait, c'est une sortie, en fait, le pantin. C'est exactement comme le Food Mannequin, c'est une stratégie de tour 1. Mm-hmm. Au tour 1, quand tu poses ton pantin, tu joues son trèfle et tu révèles un trèfle faible qui te permet de piocher une carte. Dans tous les cas, ce trèfle faible, tu l'aurais joué de ta main. Mais là, il est sur un pantin. Et donc, du coup, si l'adversaire le désingue, qu'il le désingue, moi, je m'en fous, je peux l'éduquer avec un autre trèfle. Et en tout cas, il focalise l'attention des carreaux de l'ennemi. Ça, c'est clair. Parce que comme tu as révélé le trèfle faible, l'ennemi, il se dit tout de suite, ça, c'est une carte facilement désinguable. Et il va tomber dans un piège. Ça, c'est un premier épouvantail. C'est qu'en fait, quand il va lui arracher son trèfle, en fait, derrière, il y a un gros cœur et un gros pic. Et donc, en fait, ça devient un super chevalier. Donc ça, c'est le premier, le pantin
c'est pas
chevalier.
Je pense au premier, moi, le pantin, mais d'accord.
Ah, vas-y, fais péter le pantin.
J'avoue que moi, personnellement, j'aime bien celui-là.
Le deuxième pantin, c'est le pantin au spectre, où tu révèles au départ un cœur assez faible. C'est assez rare qu'on révèle le cœur. En général, on laisse l'adversaire le désinguer. Et généralement, c'est plutôt un pantin défensif. C'est-à-dire qu'en fait, on l'autre a joué, il a joué un coup où potentiellement, il a un chevalier en face qui va avoir un gros pic. Donc nous, en face, on répond en faisant pantin. Autour d'eux, pantin spectre, c'est-à-dire que le but, c'est que l'autre utilise son chevalier pour attaquer le cœur de mon pantin. Et en fait, il s'agit d'un super spectre, c'est-à-dire souvent, le pantin de trèfle, on le sent venir gros comme une maison, il a une dame de trèfle ou un roi de trèfle au milieu de sa formation. Et donc du coup, c'est le problème un peu de ce pantin d'ailleurs, c'est que je le trouve plus visible que le pantin chevalier, qui est un peu plus... Et en fait, tout simplement, le pantin, avant tout, c'est... Une figure, même il y a des pantins qui sont destinés ni à devenir des gros chevaliers ni à devenir des gros spectres.
Voilà, je pensais plus à ce genre de pantins.
C'est juste des compléments d'attaque. C'est-à-dire que je pose en fait, moi j'ai envie de dire que c'est un peu la sortie du valet. Ça va nous permettre de définir deux termes en même temps. La sortie décrite dans le val, la sortie du valet. Qui est une des ouvertures classiques.
C'est mettre un accompli pour
poser un accompli pour avoir autour d'eux.
Deux formations.
Non.
Non.
Une action et une figure qui peut compléter une action. C'est-à-dire, si tu poses un valet, t'es sûr qu'autour d'eux, t'auras au moins une carte de ta main et une carte d'action à faire.
Tu pourras dépasser 10, quoi qu'il arrive.
Voilà, tu
quoi.
Pourras dépasser les 10. Parce que l'enjeu au val, c'est vraiment ce putain de 10. Parce que, évidemment, si tu tapes à 10, il y a vraiment peu de chances que l'adversaire ait une carte qui te défende au-dessus de 10. sauf si c'est indiqué par la figure qu'il positionne au centre. Et là, quand il faut dépasser le 10, il faut vraiment un pantin, il faut vraiment un accompli en complément d'une carte de la main. C'est très compliqué à expliquer le pantin à l'oral. C'est vraiment une stratégie qui s'éprouve, c'est une stratégie d'expérience. L'épouvantail ou le pantin, donc c'est une stratégie qui a été mise au point, enfin en tout cas ici, on va dire historiquement, par Cédric. Et honnêtement, moi je trouve que c'est une stratégie qui nécessite d'avoir énormément d'expérience. C'est très défensif, c'est très... On sait jamais comment ça va tourner, le pantin, enfin, je sais pas, c'est compliqué.
D'expérience, en fait... de bien connaître son adversaire. S'il a, comme toi, on le répète, une aversion au risque, voilà. Beaucoup de cartes retournées sur une figure, ça fait flipper. Ouais. Au prix de 4 as,
par
exemple.
Tu parles de ça, Darky, parce que moi, j'en parle pas aussi bien que toi. Cette aversion, le pantin contre ouais. Romois, c'est super. Pourquoi ?
Parce que tu as tendance à baser, t'arrêtes de faire des stats et tu commences à flipper, à te dire oulala, mais là son accompli, je sais pas, il y a beaucoup de cartes retournées, ah là là, ça se trouve il a un gros carreau, alors tu vas prendre ça en compte. Après tu vas te dire, ça se trouve il y a un gros pic, alors tu vas aussi prendre ça en compte en oubliant que c'est soit l'un soit l'autre, et du coup tu vas prendre un peu les deux en compte, et du coup tu vas finir par, dans ton psychodrame, là, te dire qu'en fait il a un super accompli, là c'est pas possible, ça peut être tout et n'importe quoi.
Exactement.
Et comme les cartes retournées recouvrent pour toi le pire comme le moins pire, tu vas te focaliser sur le pire et tu vas faire de ça une priorité. Alors que moi j'ai mis un petit valet et mes 4 as, par exemple. Là, ouais. C'est un super pantin qui n'existe peut-être pas, mais dans l'idée.
Théorique.
Et ce genre de carte retournée contre quelqu'un qui a une aversion au risque. Donc, qui...
Alors Cédric te dirait qu'un pantin doit forcément toujours avoir au moins une ressource cardinale forte. Enfin, forte, moyenne. Un 7, un 8. Quelque chose comme ça.
Ouais, oui, qu'il te soit utile. C'est vrai que sinon, voilà, si tu as 4 as, c'est peut-être une.
Exactement. C'est peut-être, et puis, il est utile. Et surtout, il renforce cet aspect de pression. C'est-à-dire que tu te dis, attends, il a mis un 7 de pique avec un valet de pique.
Oui, bien sûr.
Oh là, il a certainement pas mis un cœur pourri, tu vois. C'est un futur chevalier. Tu vois, du coup, tu pars dans l'hypothèse que ce pantin-là, il va devenir soit pantin chevalier, soit pantin spectre. Et du coup, tu flippes encore plus. Il faut dire un truc. Au Val, l'accompli, c'est une figure de pression. C'est une figure. C'est comme quand aux échecs, on sort la reine. C'est une pièce qui, lorsqu'elle est posée, met une pression colossale sur l'adversaire. Pour une raison simple, c'est qu'on sait qu'il va tenir un tour.
Il a deux points de vie.
Il a deux points de vie. Et donc, du coup, le fait qu'il va tenir deux tours fait que forcément, l'adversaire... Du coup, il n'y a plus de... Voilà. La vraie pression, elle est là, c'est qu'il n'y a plus de figure posable sur le versant qui ne soit indestructible. Parce que parfois, tu poses ton chevalier avec le roi de cœur et le 10 de cœur en cœur, tu te dis, il est indestructible. Sauf s'il y a un accompli en face. Parce que du coup, il va pouvoir se combiner avec une carte jouée de la main et il va pouvoir le désinguer. Et généralement, quand tu poses ce genre de figure, les figures fortes, roi, 10, c'est que tu veux le garder, ces pièces maîtresses. Et si tu te la fais désinguer par un pauvre accompli avec son 7 de pique de merde et une carte jouée de la main, t'es juste dégoûté, t'as perdu la partie quasiment. Enfin, au niveau psychologique, c'est fatal. Donc voilà, ça l'épouvantail. Alors, moi, pour moi, si... À l'heure où on parle, l'épouvantail devrait exploser en termes conceptuels. C'est-à-dire que je pense que l'épouvantail, c'est typiquement le concept fourre-tout qu'on utilise pour tout et n'importe quoi. C'est comme si on disait le Mannequin, c'est un épouvantail, le Sniper, c'est un épouvantail. Quelque part, l'épouvantail...
T'es passé de pantin à épouvantail, là. Pour toi, c'est pareil, c'est ça ?
C'est la même chose. D'accord, ah oui, le pantin à l'épouvantail, c'est synonyme. Le truc, c'est que pour moi, c'est un concept qui devrait exploser. Il devrait y avoir un mot... pour parler du pantin qui va se transformer en chevalier, qu'on appellerait, je sais pas, par exemple, le pantin chevalier et un pantin spectre et un pantin, en fait, ouais. Parce que à mon avis, on en parle mal. On en parle mal.
Est-ce que
voilà, c'est une petite ouverture sur des futurs concepts.
Petite question.
Il y a des concepts à inventer là. Le pour chevalier. Tu veux écrire des articles théoriques sur le Val. Il y a de quoi faire. Darky.
Le chevalier duquel on parlait dans l'épisode sur le bluff.
Oui.
Donc c'était un chevalier qui avait un as de cœur, mais qui était un roi de cœur et qui avait un 10 de pique.
Ouais.
Est-ce un pantin ? Tu vois, il fait peur juste par sa figure en fait. C'est un roi de cœur, il a un 10 de pique, tu te dis, bon, c'est un gros bourrin, mais en fait, non, c'est pas un pantin.
Non, c'est pas un pantin.
Ok, un pantin doit attirer les foudres, en fait, doit chercher à...
Bah justement, d'accord. Moi, tu vois, le pantin, eh ben, à l'heure actuelle, à part me dire qu'au début, c'est un accompli faible, bah moi, je vois pas très bien. Honnêtement, tu me demandes là, tu vois, en plus, t'as été vache, c'est toi qui m'as demandé de le définir. Honnêtement, c'est un des concepts du Val que j'ai le plus de mal à comprendre. Je trouve qu'il y a trop d'acceptation. Ça veut dire tout et n'importe quoi,
ouais.
Le pantin.
Ouais, on est d'accord.
Il y a un problème avec ce terme-là.
Je sais pas, la façon que c'est dit, moi, j'aurais tendance à appeler ça un hameçon, même, directement.
Un hameçon. Il y a un côté comme ça, ouais. Il y a un côté comme
ça.
C'est un appât.
T'as envie de forcer la personne à jouer d'une certaine façon.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais tu vois la différence qu'il y a entre poser. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Mais le truc, c'est que tu vois, il y a la différence qu'il y a entre hameçonner sur le trèfle et hameçonner sur le cœur. C'est pas du tout pareil.
Ouais. Ah bah oui, forcément.
Parce que hameçonner sur le cœur, ça peut être aussi l'occasion de mettre une dame, tu vois, de faire des spectres royaux. Hameçonner sur le trèfle, ça peut être parce qu'on sait qu'il y a un gros chevalier ou des gros piques en face et qu'on a envie de gagner du temps. Enfin. Il me semble que sous ce terme de pantin, il y a trop de choses. Il faudrait dépoussiérer, il y a plein de choses à dire, il y a plein de figures
à inventer.
Parce
que tu dis hameçonner sur le cœur et cette histoire de dame amoureuse, mais ça se fait pas en étant un pantin, ça se fait en mettant un accompli et en montrant un gros trèfle.
Non, ça se fait...
Pour qu'on tape le cœur. Moi, c'est comme ça que
Oui, ça se fait comme ça.
C'est pas un pantin, du coup.
Non. Alors, ça peut se faire aussi, c'est-à-dire que c'est quand tu poses un accompli faible, un accompli faible en cœur, alors que tu sais qu'il y a un chevalier en face. C'est un pantin au sens où il sert à tamponner le cœur, tu gagnes un tour. En fait, quand l'autre a un chevalier, comme toi tout à l'heure, t'avais un roi de pique avec un 8 de pique dedans, et en plus, c'est un chevalier. T'es dit, il va pas utiliser le cœur parce qu'il a pas envie de révéler sa faiblesse s'il en a une, il va pas utiliser le carreau parce qu'il tape déjà à 12 en pique, donc il va utiliser le pique au prochain tour. Tu peux être tenté, et j'ai été tenté, je l'ai fait d'ailleurs contre toi, de poser un accompli avec un cœur tout pourri. Juste, alors que tu sais que ça va être un spectre. En fait, quand tu poses l'accompli, tu mens dès le départ. Ouais. C'est pas un accompli que tu poses, c'est un spectre en puissance. Seulement, il a un cœur qui va te permettre de tamponner, de tamponner pendant un tour. C'est un spectre dont le cœur est destiné à juste encaisser un coup. Mmh. Et est-ce que c'est un pantin? Je sais pas. Est-ce que, enfin, tu vois, c'est complexe.
Ouais.
C'est vraiment complexe. Moi, le pantin, c'est compliqué. Mais en gros, en fait, techniquement, pour en parler, il faudrait carrément un podcast et il faudrait Cédric avec nous.
Mais
parce que lui, il a vraiment la maîtrise du truc.
La façon que tu le dis, finalement, c'est que tu aurais tendance à inciter... par exemple, tu dois poser un chevalier, tu veux poser un spectre ou autre, entre guillemets, le déguiser en accompli, quoi, finalement. Donc ce serait dans
c'est
ce
ça.
Cas-là...
C'est ça.
Je dirais, avec mon jargon à moi, je dirais un chevalier habillé ou un chevalier déguisé.
Voilà, c'est ça,
tu vois,
exactement.
Comme ça.
C'est un truc comme ça. Mais bon, on n'a pas encore...
C'est pour ça que je pose très très souvent des accomplis, moi. J'aime bien laisser à l'adversaire le choix de quelle figure il va me laisser. Est-ce qu'il va me le transformer en spectre ou me le transformer en chevalier? Ça me donne plus d'informations que si je l'avais posé directement.
Ouais. L'avantage du... Bon, on est en train de dévier du
on
sujet.
On a plein d'autres sujets techniques à parler.
Alors, donc... ouais, non, mais clairement. En fait, chacune de ces vocabulaires... Voilà. Nécessiterait un podcast carrément.
Alors, l'erreur de Narcisse.
L'erreur de Narcisse. Alors là, Darky, il faut qu'on se décide parce qu'on a toujours pas trop. Alors qu'est-ce que c'est l'erreur de Narcisse?
C'est l'erreur que commettent souvent les débutants.
Oh, oui.
Donc l'erreur de trop regarder les cartes dans la rivière.
Avec un spectre en jeu.
Avec un spectre, un moyen de déplocher. Et de faire des mauvais calculs en se disant donc là je vais tuer ça, je vais récupérer le 10 de pique et puis je vais lui tuer ça. Et au moment de le faire, de se rendre compte qu'en fait en tuant la figure adverse, ça provoque un enterrement qui donc recouvre la carte qui était destinée à être piochée et de se dire ah mince, en fait je voulais la piocher.
Et ça arrive quand on commence au Val très très souvent.
Très souvent, ouais. Ouais. Assez pour avoir un nom, et comme on le sait, une erreur au Val, c'est rédhibitoire. Ce genre de truc, ça nous fait perdre une partie.
Ouais.
Et du coup, c'est une erreur qui mérite.
Parce que tu montes ta stratégie autour de l'idée, enfin, tu montes tout un plan d'action autour de l'idée de récupérer ce 10 de cœur qui est au-dessus de la rivière de la mort. Seulement, le spectre ne te permettra de piocher qu'après avoir fait tes actions, et au cours de tes actions, tu vas tuer un personnage en face qui va le recouvrir, et voilà. Ouais. Ça, c'est l'erreur de Narcisse.
Par extension, ça pourrait être aussi, je ne sais pas, on ne l'a pas vraiment théorisé, mais l'idée de vouloir trop creuser pour récupérer une carte. Tu vois, oh là, il y a un 10 de cœur. Bon, OK, il y a 4 trucs, mais je vais quand même les piocher pour avoir le 10 de cœur.
C'est pour ça que je t'interrogeais.
Ouais, parce qu'on
parce
pas
qu'en
de...
fait, tu sais, il y avait deux idées qui avaient été développées, deux idées de nom qui avaient été développées.
D'accord.
C'était l'erreur de Narcisse. Mm-hmm. Pour moi, l'erreur de Narcisse, c'est celle que tu es en train de signaler là.
Ah, okay.
C'est-à-dire celle de piocher. Et l'autre nom, c'était l'erreur d'Héraclite. qui, tu sais, l'Héraclite, c'est ce philosophe grec dont s'est inspiré Nietzsche et qui disait que tout s'écoule et qu'on ne se baigne jamais deux fois
Ah
de suite
oui,
dans le même
d'accord.
fleuve. Et donc l'idée, c'était de dire que, en gros, la rivière, bah, il y a toujours des choses qui vont à la rivière et donc à la fin du tour, il y a des choses qui sont à l'arrêt de la rivière et c'est écoulé. Et tu vois, l'erreur, la première erreur que tu signalais,
Tu
pour moi,
l'aurais
c'était
mis
plutôt
en...
l'erreur d'Héraclite et la deuxième, l'erreur de Narcisse. Mais tous les deux, toutes ces deux erreurs tournent autour du spectre et de la rivière et cette idée fausse
De trop
que
regarder.
de trop regarder et de se dire on va récupérer cette carte qui trône au-dessus de la rivière et en fait il se passe des événements qui font qu'elle ne l'est plus. Et souvent, et c'est ça qui est très intéressant et c'est pour ça que c'est une erreur, c'est que c'est nous-mêmes qui provoquons les événements qui font que, si j'ose dire, la stratégie tombe à l'eau.
Ah, pas mal, pas mal, pas mal.
Et c'est ça qui est marrant. Et c'est qu'on se met nous-mêmes dans. Et qui tous les gens qui ont vécu cette erreur.
Se sentent cons.
Se sentent cons et on l'a fait régulièrement et c'est pour ça qu'effectivement avec Darky on s'était dit il faut qu'on fasse un petit article là-dessus et qu'on lui trouve un nom et on avait hésité entre ces deux noms, Narcisse et Héraclite.
Et c'est vous qui avez donc ouais, pour le côté historique de l'appellation dirons-nous, c'est vous deux qui avez réfléchi sur,
ouais.
Sur ce truc-là.
Oui, Rome m'avait présenté ça en
on part
tiens,
souvent sur la mythologie grecque ou des trucs
ouais.
comme ça.
C'est vrai que ça colle bien.
Hein, j'ai, ouais, j'ai encore en tête là, à un moment j'avais un spectre et j'avais un bon carreau et je pouvais dégommer une de tes figures et je me suis dit ah je vais lui balancer ce carreau là au nez et puis je vais pouvoir piocher le truc après sans me rendre compte que ben c'était déjà perdu. Balancer une carte ça suppose qu'elle flotte au-dessus de la rivière et je pouvais pas récupérer ce que je voulais récupérer.
Mais moi ça m'arrive vachement souvent hein, de faire cette erreur là même encore aujourd'hui. C'est incroyable alors
et
que
encore
pourtant,
plus demain hein, parce qu'avec des règles un peu plus compliquées on peut imaginer
on peut imaginer encore plus de complications normal. Alors une stratégie qui paraît-il ne marche pas du tout qui fait débat, c'est celle que l'on appelle la défense du diable. Alors, est-ce que vous pouvez
ça
expliquer
marche pas,
la
dé...
Ça marche pas.
La défense du diable, c'est envoyer, c'est poser que des enfants en espérant que l'adversaire ne fasse que les tuer un à un et espérer par ce biais affaiblir plus l'ennemi que l'on est affaibli nous-mêmes, puisque l'adversaire, en massacrant des enfants à tour de bras, perd 5 de majesté.
Souvent,
de majesté.
Très souvent, avec le 10 de carreau dans la main, il faut le dire. C'est-à-dire que la défense
ah oui,
du diable ne se pratique qu'avec le 10 ou le 9 de carreau dans la main.
Oui, avec une. D'accord.
Avec
okay.
dans l'idée,
un
à un moment donné, de poser un mage ou un mage de carreau, généralement, qui va achever en fait, l'adversaire qui s'est trop affaibli à force de tuer des enfants.
Et alors, selon moi, cette stratégie ne marche pas. En tout cas, je ne l'ai jamais vu marcher. Puisque l'adversaire pose un spectre, tue votre enfant, le repioche, en pose un enfant à côté de lui et du coup regagne plus de majesté
Exactement.
Qu'il n'en perd.
Exactement. C'est généralement ce qui se passe. Ouais. Donc voilà, c'est une défense qui est dans le livre de base. Elle fait aussi en fait une référence historique au diable pour lequel il faut sacrifier, vendre son âme et sacrifier des enfants. Mais c'est une défense qui se voit très très souvent, même si elle ne marche pas, parce qu'elle permet de temporiser peut-être l'espoir de trouver autre chose dans la pioche, qui sait. Et elle est souvent pratiquée par des gens qui sont en surabondance de cœur. Et on la voit quand même souvent, même si elle ne fonctionne pas, même si on sait qu'elle mène à la fin, souvent on la fait pour jouer jusqu'au bout.
Oui,
en
voilà,
fait.
Du coup, c'est pas vraiment une stratégie, quoi. C'est un peu
c'est
le dernier recours.
Stratégie du désespoir,
ouais.
quoi. Le dernier recours, on sait jamais, ça peut passer.
Ah oui, mais même quand on est persuadé, comme moi, que ça marche pas, on se retrouve des fois à l'utiliser en se disant j'ai rien de mieux à faire, puis au moins ça va lui faire croire que j'ai peut-être un plan derrière tout ça, quoi.
Exact. Est-ce qu'il y a d'autres termes techniques ? Moi, j'en ai encore une. Est-ce qu'il y a un terme technique que vous voudriez voir abordé ?
Pourquoi tu veux garder le tien à la fin ? Moi, là, comme ça, j'en ai pas.
T'en as pas, ouais, qui te reviennent ?
Non, comme ça, non.
Je sais pas non plus. Alors, moi, j'en ai un. C'est la Deneb, l'ouverture de Deneb, qu'on peut employer souvent. La Deneb dite classique et la Deneb, tout simplement.
Mmh.
Alors, la Deneb classique consiste à poser au tour 1. Quand on pourrait poser un accompli, on choisit plutôt de poser un enfant. Un enfant de cœur, généralement. Donc la Deneb classique, c'est un enfant de cœur et un spectre de trèfle. Donc on va mettre par exemple le roi de cœur avec son 10 de cœur. Et puis le tour suivant, on va mettre une reine de trèfle, par exemple, ou un roi de trèfle avec un gros trèfle. Et du coup, on se retrouve dans une assise qui est très sympa. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un enfant qui nous défend au pic avec son plus 1, et de l'autre un spectre qui nous défend du carreau parce qu'il focalise l'attention du carreau.
C'est pas mal ça.
On appelle ça une Deneb classique lorsque la figure de trèfle est le spectre et lorsqu'une figure de cœur est l'enfant. On appelle ça une Deneb dite classique. l'ADNM normal, c'est juste, bah voilà, on fait la même chose, mais les figures ne coïncident pas si bien. Et c'est l'équivalent du rock, finalement, aux échecs, puisqu'on est tranquillement.
Oui, effectivement. Ouais.
On est tranquillement. Ça fait penser à ça.
On est tranquillement dans son château, défendu de part et d'autre par un spectre, un enfant. Et pour le côté esthétique, ça forme une croix qui évoque l'asile qu'offre l'église chrétienne dans la mythologie moyenâgeuse, enfin dans le mythe. Et donc du coup c'est vraiment une figure qui est très esthétique et très symbolique, chargée de symboles, la figure de Deneb. Et là pareil, Deneb est un personnage de l'histoire du Val, qui a la réputation d'avoir brisé l'un des miroirs, donc l'un des gardiens d'Hélios, qui s'appelait Vulcain, et qui est une planète qui aurait été, selon les perturbations de Mercure, Newton avait prédit qu'il y aurait, ou en tout cas les Newtoniens avaient prédit qu'il y aurait une planète à côté du Soleil nommée Vulcain, et on s'est aperçu qu'en fait Vulcain n'existait pas, et que les perturbations dans l'orbite de Mercure étaient dues à des phénomènes qu'Einstein a expliqués plus tard, et que la théorie newtonienne ne pouvait pas si bien expliquer.
Ça, c'est ce que certains disent. En vrai, on sait que ce sont les Romuliens qui sont allés détruire la planète natale de Spock.
Voilà. Et dans le Val, donc c'est l'autre explication à part les Romuliens.
Non. Tout le monde sait très bien que c'était Babylone 4 qui a disparu.
Bon, quoi qu'il en soit, dans le Val, c'est Deneb qui a réussi son Val contre Vulcain en inventant cette ouverture célèbre, l'ouverture de Deneb. Alors qu'elle a la possibilité de jouer le valet, c'est-à-dire de poser un accompli très très puissant, puisqu'elle a quasiment que des 10 et des 9. Elle choisit plutôt de poser un roi de cœur avec son 10 et une dame de trèfle avec son 9 de trèfle. Et donc elle est dans son château défendu. Et elle bat Vulcain comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelle la Deneb. Voilà.
Pas mal du tout, j'aime bien le côté historique.
Ouais, c'est sympa. J'essaye en même temps d'expliquer un petit peu l'histoire des trucs.
Ça donne une couleur aux stratégies.
Ouais, ouais, complètement.
Alors les enterrements, l'enterrement à la Saint-Brieuc. Alors ça c'est magnifique comme histoire.
À la Briochaine.
Alors malheureusement, je ne pourrais pas en faire état dans le Val 2 parce que le nom l'enterrement à la Saint-Brieuc est un petit peu, mais c'est une belle histoire. Je te laisse la raconter, Dark. Cette histoire de l'enterrement.
L'enterrement, chez moi, voilà comment ça se traduit. J'ai, on va dire, un chevalier, Romaric, qui a un gros pic et il me le lance dans mon cœur. Et donc, mon chevalier meurt. À la base, après avoir lu le bouquin 1, donc le testament de Sinnos, exactement, il n'était pas spécialement mentionné comment devait se dérouler l'enterrement. Et moi, je pensais, vu que le Val est un jeu de mémoire, que mon cœur était brisé, mon cœur allait à la rivière. Maintenant, je me retrouve avec un chevalier, donc c'est-à-dire la tête, le carreau et le pic, que je devais enterrer, mais dans l'ordre que je choisissais, sans voir les cartes. Donc je devais dire, je ne sais plus vraiment ce que j'ai mis en carreau, je ne sais plus ce que j'ai mis en pic. Allez, hop, on va commencer par le pic, je le retourne. Ah mince, c'était un œuf de pic, je le mets très tôt. Voilà. Et donc, concrètement, c'est un enterrement à l'aveugle, qui consiste à donc enterrer ses figures sans retourner ses cartes. La carte que vous choisissez, elle va à la rivière de la mort, même si vous exprimez des regrets après l'avoir touchée. Là où, plus traditionnellement, tout le monde a compris bien comme il fallait en fait le livre, on a tendance à retourner toutes ses cartes, voilà, et se dire, bon, dans quel ordre j'enterre mon bazar.
Exactement. Mais ce qui était intéressant, c'est que le livre ne disait pas ce qui se passait si effectivement on enterrait une figure, et on savait pas ce qu'on appelle les restes. Alors ça, c'est pareil, c'est aussi un autre concept. Quand on joue une carte de sa main et qu'on arrache le cœur et que la figure prend une formation insensée, c'est-à-dire qui n'existe pas dans le Val, on enterre les restes. Les restes, c'est les cartes qui restent. Et Darky pensait que les cartes qu'on enterre de cette manière, on ne les regarde pas. L'étoile qui les enterre ne les regardait pas avant de les mettre dans la rivière. Et c'est vrai que c'est ambigu, dans le livre, c'est pas écrit. Y a pas, on sait pas ce qu'on fait des restes. Est-ce
j'avais
qu'on les
été
regarde
outré quand je t'avais joué contre toi la première fois.
Et
que tu
t'avais retourné. Ouais. Alors que nous, c'était évident qu'il fallait les retourner. Mais en fait, ça n'a jamais été expliqué. Et donc, du coup, effectivement, ça a permis à cet enterrement à la Saint-Brieuc d'exister.
Un petit hommage.
Ouais, ça c'est.
Certains le pratiquent encore.
Et alors pourquoi Saint-Brieuc? Parce que.
Oui, c'est à la Briochaine d'ailleurs, on dit. Hein, ouais. Les habitants
de Saint-Brieuc.
Pourquoi Saint-Brieuc? Parce que tu croyais que je venais de Saint-Brieuc.
Absolument,
en fait.
Alors que c'est pas vrai.
Ça, c'est
un
mensonge.
Ça, c'est magnifique aussi, quoi. Faut le dire quand même, c'est énorme. C'est énorme.
En gros, je suis en train de me dire que ça aurait pu s'appeler même un enterrement à la brestoise, quoi.
Non, mais carrément.
Bah ouais, ouais, là,
non, mais je sais pas pourquoi.
Je vois pas de brestoise au final. Hein.
Non, non, mais je
et
sais,
c'est comme Cobal.
C'est drôle, quoi.
Vous connaissez Cobal de Radio Rôliste, le podcast du jeu de rôle, là, de Cobal. Je suis. Vous connaissez ? Non ?
De nom, de nom.
Je suis persuadé à chaque fois que Cobal est suisse. Et à chaque fois que je le rencontre, je dis ah, mais salut, alors ça va en Suisse et tout. Puis il me dit. Putain, Rome, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Je te dis, je suis parisien. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Cobal est suisse depuis toujours. Voilà, pendant que voilà, genre au passage, je lui fais un petit peu de
maintenant que
pour
tu
son
l'as
podcast.
Dit dans un micro que tu savais qu'il était parisien, tu vas encore plus passer pour un con quand tu vas le prendre
ah,
pour
oui,
un
oui,
suisse.
Ah oui, carrément, carrément. Ouais. Alors, autre vocabulaire qu'on emploie de temps en temps, c'est le. Là, t'as d'autres trucs parce que j'ai l'impression de parler.
Ah non, 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 je t'écoute. Moi, j'ai l'impression de plus avoir d'idées alors que je sais qu'il en reste. Je trouve que c'est intéressant comme podcast parce qu'on va. Demain, on va se dire mince, on a oublié de parler de tel.
Ouais, c'est sûr. La pénurie, ce qu'on appelle une pénurie.
Ah, bah,
ça vaut peut-être le coup de l'expliquer vaguement, même si on peut renvoyer au premier podcast. Mais la pénurie, c'est quand il nous manque quelque chose, tout simplement. Alors. C'est quoi ?
Eh bien, c'est dur à dire ça. Donc, une pénurie de tête, c'est assez facile. C'est une situation qui provoque un reset du jeu. On recommence. C'est quand on n'a pas de tête, simplement. Joker compris. Une pénurie de cœur, évidemment, c'est quand on n'a pas de cœur dans sa main. Bien que ça laisse à... Ça, c'est un petit peu plus dur. Pas de cœur, hors les têtes. On est d'accord ? Parce que si on a un valet de cœur, mais qu'on n'a pas de 7 de cœur, de 8 de cœur, etc., on est en pénurie de cœur.
Oui, c'est ça, en fait.
Par contre, suis-je en pénurie de cœur ? Je vais peut-être poser la question
en fait,
après la définition.
Il faut penser en ressources cardinales. C'est-à-dire que quand on n'a pas de ressources cardinales de cœur, on est en pénurie de cœur.
Oui et non, parce que si j'ai un roi de cœur, une dame de cœur...
Ah, je suis pas en pénurie de cœur. Ah, putain, t'as raison.
Un 8 de pique, ouais. Un 7 de carreau, je peux poser,
poser un accompli.
Et avec du trèfle, ouais.
Alors, on sent que c'est le codeur qui parle, dis donc.
Un petit peu, ouais.
Parce qu'il faut savoir que Darky a fait quelque chose d'assez extraordinaire, on pourrait quand même le signaler. Il a calculé de nombreuses statistiques, pas encore toutes, mais il a calculé vraiment de nombreuses statistiques au sujet du Val. Et donc, toi, tu connais le Val en chiffres. Tu sais, par exemple, que telle figure, lorsqu'on la pose, on a 65% de chances de gagner ou ce genre de choses.
Voilà, ouais.
C'est
donc,
pas
alors,
le cas. C'est
même
cas
pas du calcul, parce que c'est plus feignant que ça, c'est de la simulation.
Voilà.
Mais oui, donc...
Donc, juste pour finir ce que je disais, puis je te redonne la parole, c'est que du coup, toi, t'as été confronté à ces problèmes de pénurie et de non-pénurie, parce que tu dis, mais comment je code la pénurie, sachant que si il y a un roi et une dame, là, c'est plus une pénurie, alors que pourtant il n'a pas de ressources de cœur, etc. Et donc il en a chié.
On sent les informaticiens qui se posent des problèmes qui n'existent pas, quoi. Mais on s'en fout, pourquoi tu veux définir ça ?
Mais en fait, c'est super important au final.
Bah, ça permet d'avoir une petite lecture du jeu puis de se poser les.
Tiens,
de
définir. Combien de pénuries au final ? Combien de pénuries dans le Val ? Eh bien, de pourcentage de pénuries dans le Val ? Eh bien, Darky, tu peux répondre à cette question.
Ouais.
Alors, mais le problème, c'est qu'on sait tous les deux que ça va changer, mais. À l'heure actuelle, dans le Val de Sinlo, c'est...
Oh, tu me prends en traître, hein, mais c'était quoi ? C'était 26-27%.
On était entre 25 et 23% okay. Avec une marge d'erreur de 2 points.
Ouais, c'était ça. D'accord, c'était ça. Ouais. Sur 30 millions de mains simulées.
Ça veut dire qu'entre une partie sur 4 et une partie sur 5 est potentiellement jouée en pénurie.
Voilà.
Mais je vous rassure, chers auditeurs, on peut gagner avec une pénurie en main de base, il y a no soucis. C'est pas
un... Oh, ça me permet d'introduire un nouveau alors on a fait beaucoup de parenthèses de digressions là.
Ouais.
Est-ce qu'on a fini de définir ce que c'était qu'une pénurie ? Oui, il me semble.
Oui.
Tu viens de dire qu'on pouvait jouer avec une pénurie en main, ça m'amène à un nouveau terme technique qu'on appelle la main romarique.
Ah oui, la main romarique. Alors là, ça c'est vraiment entre nous, mais bon, allez, on peut
la. Ah si, elle existe. Je pense qu'il y a certains joueurs qui
à la main d'Arki, on l'a vu aussi.
D'ailleurs, la main d'Arki qui a d'après pareil calculé sur 30 millions de simulations. La main d'Arki, on en a fait un podcast, et pourtant n'arrive qu'une seule fois sur 100.
Mais non, mais moi c'est faux ça, je suis sûr que c'est faux.
Mais non, c'est vrai.
Il y a une erreur dans ton truc, c'est pas possible.
Donc la main d'Arki, il y a...
Putain, moi j'en ai plein des mains d'Arki, quoi. C'est...
Mais oui, mais est-ce que t'as joué 30 millions de fois ? Non, donc t'es pas un bon échantillon. Désolé de te le dire, Romaric.
Je suis pas un bon échantillon.
Non,
non, c'est pas vrai.
Ma parole. Je vais compter les points si ça continue.
1%, 1% seulement de main d'Arki.
D'avoir deux piques de cœur, deux trèfles, deux carreaux. Ah, et
et ça t'est pas arrivé plein de fois, toi, pour toi ?
Trois fois, quelque chose comme ça, ouais.
Ah non, mais moi, ça m'est arrivé plein de fois. J'ai même pris plein de photos pour ta main d'Arki, là. Pour que j'ai hésité entre plein de photos différentes.
Ben, c'est
de
bien,
la
mais ça veut dire que statistiquement, il te reste encore pas mal de parties. T'as une centaine de parties avant de t'en remanger une, quoi.
Ouais. C'est marrant.
On a l'impression comme ça, mais.
Non, mais c'est incroyable.
Mince, qu'est-ce que je disais ?
Donc, tu disais la main d'Arki, la main romarique. Tu
oui.
voulais expliquer ça à nos
donc auditeurs. La main romarique, c'est avoir une main pourrie
oui.
et en être incroyablement content. Parce que c'est se lever, remettre sa cravate, reprendre son verre et dire challenge accepted, cette main-là, je vais en faire quelque chose de merveilleux. Et donc Romaric, vous le verrez être pas très content quand il a 10 de pique, 10 de cœur, 10 de trèfle, il se dit super, super la partie quoi. Par contre, quand il a 2 as, pas de tête, un 7 de carreau pour plus forte carte, ah, il va se dire alors là, moi, là, j'ai quelque chose à faire, là, j'ai quelque chose à jouer. Et donc c'est la main pourrie qui provoque de la satisfaction et du challenge.
Mais ça c'est normal, c'est faut... encore une fois Romaric fan de Saint Seiya, c'est le côté Seiya. L'armure est pétée, il pisse le sang et pourtant c'est lui le plus fort.
Elle est pas tout à fait pourrie la main Romaric, c'est souvent une main dans laquelle il y a un bon atout, il y a un truc à jouer mais on sait pas trop comment le faire et on sent qu'il y a quelque chose à faire. Ah, j'ai un excellent exemple pour illustrer la main Romaric. Est-ce que vous avez déjà joué au Scrabble, mes amis? Oh, je pense que oui.
Oui,
alors, vous vous souvenez de cette palette de chers auditeurs, souvenez-vous avec votre grand-mère, vous aussi, vous avez joué au Scrabble, même si vous en avez.
La palette verte.
Et vous vous souvenez de cette petite palette sur laquelle il y a des lettres qui sont données. Et ces lettres, quand vous les voyez ensemble, elles font sens. Il y a comme une espèce de cohérence et vous vous dites, putain, il doit y avoir un Scrabble avec ça. J'en suis sûr, il y a un Scrabble. Mais vous ne le trouvez pas. Eh bien, là, c'est une palette Romaric. La main Romaric, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la main qui... On voit qu'elle est un petit peu pourrie, il y a un truc qui va pas, mais on sent que c'est possible. Et c'est ça le truc d'Arki, c'est ça la main Romaric.
Oui, je vois bien, la distribution de main mystique.
La distribution bizarre. Tu te dis, putain, ça c'est la main qui va me rendre célèbre. Tu te dis, ça, je vais faire un Scrabble là, je vais faire un Scrabble incroyable avec cette palette. Tu te dis, c'est ça le truc, c'est pour le spectacle.
D'accord, donc c'est la sensation provoquée par une main a priori voilà, c'est mystique ça. Et perdue d'avance, mais qui recèle peut-être des mystères et, du potentiel.
Alors, une petite chose qu'on peut expliquer aussi, c'est la Janus. La Janus, c'est la partie tout simplement où on joue à 4. Hein, on appelle ça une.
J'avais complètement oublié qu'on appelait ça comme ça.
Une variante de Janus, voilà. On sera peut-être amené à en parler en podcast. Moi, on joue beaucoup en Janus avec Géraldine et Yann Sully, que je salue au passage. On s'est fait des putains de parties à 4. Moi, tu vois, le Val à 4, j'y croyais pas. Et ben, avec des joueurs expérimentés qui jouent assez rapidement, ça devient super drôle. Mmh. Et puis, ce qui est sympa, c'est que même s'il y a du temps qui s'écoule, les joueurs parlent, essayent de parler entre eux, sachant qu'à chaque fois qu'ils parlent entre eux, ils donnent des informations aux autres aussi. Donc il y a une espèce de petit truc comme ça.
Tu es en train de me dire que tu es en train de faire rentrer du méta-jeu dans le jeu ? Ça ne ressemble pas du tout, ça.
Si, à fond.
Très curieux.
Tu plaisantes ou quoi ?
D'accord.
C'est pas toi qui as inventé ça, le méta-jeu, quand même. Alors le méta-jeu, tiens, puisque tu nous parles de ça, t'as qu'à le définir. Tiens. Allez, pan, et c'est pas si évident.
C'est pas, oh, c'est le pas regard si évident. Donc le méta-jeu, méta qui veut dire retour en grec, j'ai peur là.
C'est ça.
Ok. Et donc c'est.
En fait, ça veut dire. Ah, ouais, ça veut dire plein de choses, méta en fait en grec. Mais,
ouais,
mais
autour. Vas-y, ouais.
Autour, après, quelque chose qui est au sujet de quelque chose.
Voilà, ouais.
Le métalangage, ce serait un langage qui parle du langage par exemple. La métaphysique, c'est censé être la matière qui vient avant la physique. Puis bon, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, tout ça, ça vient juste d'un bibliothécaire qui a classé les ouvrages d'Aristote un jour. Et puis, il s'est dit, tiens, mais il y a des livres, c'est pas vraiment de la physique. Alors, je vais les mettre après. Donc, du coup, il les a appelés, je sais pas, comment on va appeler ça, métaphysique. Puis,
c'est vrai, ça?
Ouais. Oh, l'histoire du mot métaphysique, c'est ça. C'est un accident, en fait.
Oh, c'est dingue.
Et au final, ouais, non, c'est...
Il y a le méta-humour aussi que j'ai appris récemment, les méta-blagues. Mmh. C'est... Bon, ok, je me risque.
Méta chemise. Ça, c'est une méta blague. Tu comptes toujours les points, Jeff, en fait. Hein. Tu comptes toujours les points.
Oh là 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 là. Oui, donc une méta blague. Voilà, hein, une rousse, une blonde et une brune rentrent dans un bar et le barman fait: mais c'est quoi ça, c'est une blague?
Oui, voilà, très bien.
Ouais. Méta blague. Donc,
un belge,
j'entends les silences là dans tous les audits, dans tous les MP3, dans tous les lecteurs MP3 et les baffles. C'est un peu ça.
Je vous rassure, le podcast du Val n'a lieu que tous les mois, donc si.
Alors, j'ai envie de définir méta-jeu comme tout ce qui n'est pas dans le jeu, mais qui a but d'influencer la partie. Mmh. Donc, c'est avant de commencer une partie, dire tu vas voir, moi je pose tout le temps des accomplis amoureux, ou alors c'est ma figure favorite. Ça, quelque part, ça fait partie du méta-jeu. Donner un petit peu des indications.
Tu donnes une information verbale qui va servir à influencer la partie. Quoi. Mm-hmm.
Ah, vous en êtes deux grands spécialistes quand même. Les gars.
Non, je ne suis pas sûr de ça. Il ne faut pas confondre le méta-jeu, ou en tout cas, c'est un peu comme le pantin. C'est un concept, le méta-jeu, c'est un concept qui est prêt à exploser à tout moment. Parce qu'il y a aussi la dimension psychologique. Quand tu dis, par exemple, oh, je vais te poutrer la tronche, ça, c'est de la psychologie pour moi, à mon avis. et c'est pas du méta-jeu vraiment. Le méta-jeu, c'est vraiment dire, par exemple, tu as un accompli, tu dis, je vais pas utiliser son cœur parce qu'il est trop faible, je vais plutôt utiliser son trèfle, alors qu'en fait, le cœur est super fort pour influencer l'autre qui tape le cœur, etc.
C'est du bluff aussi, ça, non ?
C'est du bluff aussi, mais c'est pas de la psychologie.
C'est du bluff, mais tu utilises des termes.
Allez, ça y est, c'est reparti sur le fameux débat entre bluff et psychologie.
Le méta-jeu au pire papier-ciseau, c'est de dire, je vais commencer par une pierre et de jouer.
Voilà, c'est ça.
Ça,
ouais.
Ça fait partie du méta-jeu.
C'est complexe parce que. Ouais, si, oui, c'est ça. Ouais.
C'est
mais bon,
chose
pierre, papier, ciseaux, ça n'influence en rien. Ah, si,
ah,
putain,
si, si,
si ça joue à fond.
Pierre,
Si ça joue à fond. Je pensais aussi à expliquer ce que c'était que le mulligan. Parce qu'on en parle de temps en temps. Le mulligan, c'est quelque chose qui a été vraiment, qui a fait l'objet de quelques débats à la création du Val au départ. C'était, oh oui, il y a quand même des mains pourries. Et les joueurs demandaient un mulligan. Mulligan, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on prend sa main, on la remélange dans la source et on en prend une autre.
D'où parfois avec ça... un malus. Pardon.
Avec un malus.
Dans certains jeux.
Souvent avec un malus. C'est-à-dire souvent avec une carte de moins, par exemple. J'avais 10 cartes, je décide de les mulliganer, donc je les remélange dans la source et j'en prends que 9. Et si les 9 me plaisent pas, je peux encore remulliganer et en prendre que 8. Puis en prendre que 7, etc. Si vraiment ça me plaît jamais. Et ça, ce système-là, le système mulligan, vient de Magic l'Assemblée. C'est dans Magic, non ? T'es pas d'accord ?
Alors,
avec ça,
il paraît que je suis allé voir sur Wikipédia un petit peu, ça a des influences d'avant, il me semble du golf ou quelque chose comme
d'accord.
Ça. Ils avaient déjà proposé. Mais c'est principalement connu chez
bah
les
moi,
geeks,
en tout
on
cas,
va dire,
voilà,
chez Magic. Ouais.
Voilà. Pour moi, c'est un terme que j'hérite de Magic. C'est une règle qui existe, c'est-à-dire que quand la main nous plaît pas, on pioche cette carte hein, dans Magic en main de base. Quand la main de base ne nous plaît pas, on peut déclarer un mulligan, remettre la main dans la bibliothèque, c'est-à-dire dans son deck, dans son paquet de cartes, et repiocher 6 cartes, 6 nouvelles cartes. Donc voilà.
Qu'on peut même remulliganer dans Magic, il me semble.
Oui, jusqu'à ne plus en avoir du tout, d'ailleurs, je crois.
D'accord.
Et donc voilà, donc le mulligan, ça vient là. Et je me suis toujours opposé au mulligan pour des raisons que j'expliquerai dans un prochain podcast, je tease. Parce que je pense que ça vaudrait vraiment le coup. Au mulligan ovale, je veux dire. Hein, bah, pas à Magic.
Je t'avoue que d'un coup, ça m'intrigue. Là, je connais pas la raison.
Et ben,
ça
on en parlera dans un prochain podcast parce que sinon.
Là, j'ai pas mal de questions aussi à te poser.
On est déjà à 50 minutes de podcast.
Oh là
je pense,
là là là.
Enfin, presque. Donc, je pense que vraiment, il faut qu'on spin. L'autre variante, c'est la variante d'Austen, dont on sera peut-être aussi amené à parler dans le podcast. Elle a une histoire rigolote.
C'est la meilleure variante du monde.
Alors, voilà, c'est la meilleure variante du monde. Alors, du coup, c'est pareil. C'est une variante qui plaît beaucoup parce qu'elle permet d'éviter l'aléatoire de la main de base. Donc, au final, elle permet de choisir. Alors, en gros, on commence avec 10 cartes en main et on va prendre une de ces cartes et donner les 9 restantes à son adversaire qui va faire de même avec la main qu'il a eue. Donc, lui, il va nous donner 9 cartes et il en aura sélectionné une au préalable parmi les 10 qu'il aura pioché. Et on va tourner comme ça jusqu'à ce qu'à la fin, il n'y ait plus de cartes à se faire tourner. Puisqu'à chaque fois, on en prend une au passage
d'accord,
de la main.
J'ai,
donc on voit. On voit
notre jeu à partir de cartes héritées de l'adversaire qu'il n'a pas choisi.
De quoi ?
Je résumais juste. On
oui,
constitue
voilà,
notre
ça.
Jeu
exactement.
À partir de cartes.
Exactement.
Héritées.
Et du coup, on voit aussi ce que l'autre n'a pas choisi.
Ah ouais,
et voyant ça, on acquiert des informations sur la partie. Donc la main de base est plus ou moins connue de chaque joueur selon ses capacités mémorielles, etc. Ce qui colle très très bien au Val, en fait, hein, qui est vraiment une variante qui est très valienne. Elle n'est pas du tout hors couleur. Et on l'appelle la variante d'Austen. Et puis elle a quand même de l'aléatoire parce qu'après, la pioche des cartes, on ne la connaît pas malgré tout. Et donc, qu'est-ce qui nous dit que la carte qui est là, retournée sous le pouvoir de cet accompli, c'est pas ce 7 de trèfle qu'on a vu tout à l'heure, mais plutôt le 10 de trèfle qu'il a pioché et qu'on n'a pas vu. Et donc, du coup, il y a une dimension aussi quand même psychologique qui revient très très vite de par le hasard qui revient par les pioches. Et cette variante d'Austen, elle vient tout simplement de quelqu'un que vous connaissez peut-être si vous êtes auditeur régulier des podcasts de La Cellule. Il s'agit tout simplement d'Olivier Sten, hein, qui nous a fait l'honneur de participer à pas mal de podcasts et qui participera encore à pas mal de podcasts sur La Cellule. Puisque c'est un membre actif de La Cellule qui ne peut malheureusement, de par sa situation géographique, puisque Olivier est belge, ne pas venir très très souvent. Mais en tout cas, voilà, c'est de lui d'où vient cette variante. Quand il a vu le Val, la première chose qu'il a dit, c'est « Oui, c'est bien, mais il y a trop d'aléatoires. Moi, je veux qu'on drafte. »
En bon joueur de poker, il a dit ça.
En bon joueur de poker, il a dit ça. Et donc, du coup, je l'ai mise dans la base et je lui ai donné son nom. J'aurais pu l'appeler la variante
du Val drafté. Ouais.
Voilà, du Val drafté, parce
oui,
que
oui.
Draft, encore une fois, On peut. Putain. Moi, je l'ai dans le casque en retour, en fait. J'entends des blagues un peu en décalé, tu vois.
Pardon.
Donc, le truc, c'est. Je sais même plus ce que je voulais dire. J'aurais pu laver le Val drafté, mais ça aurait fait un concept en plus à expliquer. Donc, le draft dans Magic, c'est on ouvre un booster et on fait exactement une variante de Sten, mais sauf que c'est avec un booster, donc un paquet de cartes qu'on a ouvert en aléatoire et qui vient directement de Wizard of the Coast. Donc, c'est aussi une méthode qui se pratique dans Magic. Mais j'ai préféré l'appeler Austen parce que Austen, je trouve que ça fait un peu nom d'étoile et puis c'est plus dans la couleur que le Val drafté.
Passe super bien le nom. Puis draft, ça fait un mot anglais qu'il y en a très peu dans le Val, il me semble, des mots anglais.
Je crois qu'il y a
à part l'overkill.
Ouais. Puis je te dis, et encore, c'est pas un concept qu'on trouve dans la base.
Oui, d'accord. Il y en a même pas.
Stern, techniquement, en allemand, c'est étoile. Morgenstern, par exemple.
Ouais. Alors là, c'est Stein. C'est Sten. Ouais, mais attention, c'est Sten.
Stein.
Ouais, ça veut dire l'étoile du matin.
Stern. C'est bon, c'est.
Ouais, mais c'est vrai que c'est pas si loin.
Olivier m'en veut pas de faire un jeu de mots sur son nom.
Olivier. Quelle star, c'est tout ce que j'ai à dire.
Oh, pas mal.
C'est une star.
La variante Austen qui méritera aussi un podcast à lui tout seul.
Ah oui, je pense. Il y en a plein. Alors, est-ce que vous connaissez des termes techniques dans la variante narrative? Je crois pas. Il y a les amoureux aussi, dont on n'a pas parlé. Ça vaudrait peut-être le coup de le définir. L'amoureux.
Est-ce que, ouais.
C'est l'accompli qui possède en cœur sa propre dame. Donc, par exemple, le roi de trèfle qui a sa dame de trèfle en cœur. Ou le roi de cœur qui a sa dame de cœur en cœur. Ou le, etc. Voire même la dame de trèfle qui a son roi en cœur aussi, c'est une amoureuse. En gros, on utilise le roi et la dame d'une même couleur pour servir l'un et l'autre de cœur à l'un et à l'autre. Et si ce cœur va à la rivière, bien sûr, c'est comme si on avait assassiné son amoureux ou son amoureuse. Elle en est très très affectée, très très peinée, et elle devient ou il devient un spectre très particulier qui a des pouvoirs supplémentaires parce qu'il est très vénère et qu'il ne quittera pas le Val avant d'avoir fait payer l'étoile rivale.
Un spectre, tu peux le donner le nom, hein, voilà. Puisqu'on est dans le podcast de la nomenclature,
tout à fait.
Le spectre royal.
Le spectre royal pour le roi et la dame noire pour la dame. Alors, le spectre royal, il a plus 1 en esprit, plus 1 en pique, plus 3 en trèfle. Et la dame noire, plus 1 en esprit, plus 2 en trèfle, elle n'a pas de bonus en pique. Par contre, lorsqu'elle retourne son trèfle, elle permet de piocher soit une carte à la source, soit deux cartes à la rivière. C'est-à-dire que elle draine la rivière, en fait. Et si son roi revient sur le Val, elle considère que son amour est ressuscité, réincarné. Il est de retour. Et donc, du coup, elle quitte le Val consolée et fait gagner à son étoile la modique somme de 20 points de majesté en tout. Si on compte.
Mais là, on est dans les tréfonds du Val. Hein. C'est vraiment une situation rare.
C'est vraiment une situation très, très rare qui peut éventuellement servir en Val narratif, etc. Qui peut engendrer de belles histoires. Je viens de penser à un autre terme technique, c'est le terme d'exorciser en parlant d'un spectre. Quand on dit on exorcise un spectre, veut dire qu'on le tue, hein, au sens où on lui fait perdre son pouvoir et du coup il quitte le Val. On dit aussi qu'on le désenchante parfois, j'ai entendu des joueurs, notamment des joueurs de Magic, dire ça. Voilà. Je crois qu'on a vraiment fait le tour de tout ce qu'on pouvait vous dire au niveau des termes techniques. C'est un petit glossaire qui pourra vous servir, chers auditeurs, pour nous suivre un peu mieux. Il y a beaucoup de termes techniques qui viendront aussi au cours de ces podcasts parce que le Val et la théorie du Val continuent, notamment sur le blog du Val. Si vous avez des articles théoriques à nous envoyer, on est vraiment promeneurs comme... Promeneurs. Oh la vache, il est tard. On est vraiment preneurs. Ça nous ferait très très plaisir de voir aussi les manières dont vous jouez. De comprendre un petit peu mieux vos stratégies et de faire des découvertes parce que vous voyez l'enfant de Milaz, c'est une véritable découverte et honnêtement ça a changé vraiment le Val, en tout cas pour moi. Je sais pas pour toi Darky, mais
bah si, je l'ai joué avec toi là il y a pas longtemps, j'ai adoré, c'était super intéressant quand même.
C'est super intéressant, vraiment c'est un super,
d'autant plus que c'était insoupçonné, c'est super.
Ouais. Et en plus, je ne m'attendais pas à ce que ce soit celui-là. C'est-à-dire qu'en plus, il était faible, ton enfant.
Et ouais.
Ouais. Alors que moi, je m'attendais à ce qu'il soit.
Ce qui est plaisant, c'est qu'on sent qu'il y a encore, on sent qu'il y a encore des techniques, des variantes, ce genre de choses à découvrir.
Ouais, il y a plein de choses à découvrir. Il y a plein de concepts, comme on disait tout à l'heure.
Affiger, plus.
Ouais, affiger, ouais. Il y a plein de théories, il y a plein de manières de jouer, il y a plein de réponses qui semblaient évidentes, on a finalement pu démontrer qu'elles ne l'étaient pas. Il y a plein de choses à découvrir. Le Val est un jeu qui
parce
est...
Parce que là, ouais, on se pose en théoricien, mais on n'est vraiment pas connaisseur. Le magicien, en ce moment, par exemple, on peut tous le dire ici, on le trouve un peu faible.
Ouais.
Et du coup, on ne le joue pas beaucoup.
On ne le joue pas beaucoup.
Si ça se trouve, il existe des super stratégies qui se basent sur sa faiblesse. On ne sait pas vraiment.
Ouais, on ne sait pas encore. Et donc, il y a beaucoup de choses à découvrir, c'est clair. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire déjà sur les différents termes techniques qu'on sera peut-être amené à employer au cours de ces podcasts. Ça vous fait un petit glossaire, ma foi, bien utile. Mais de toute façon, le glossaire principal, ça reste bien sûr le livre de base du Val. Et on se dit au mois prochain pour un prochain thème de podcast.
Ciao.
À plus. Salut.
Au revoir.
Et bonne année.
Et bonne année. Décalé,